Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures. Avant minuit.
Yes, man.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Il est 6h avant minuit, mercredi 4 mars de l'année 2026, année du renouveau. Si, si, vous écoutez Syllab 88.4 FM à Rennes. Merci à vous. Tout de suite, le flash d'Estelle. L'escalade se poursuit au Moyen-Orient, l'OTAN intervient. Selon le ministère turc de la Défense, un missile tiré depuis l'Iran a été détruit par des systèmes de défense de l'OTAN basés en Méditerranée. Le missile se dirigeait vers l'espace aérien turc. L'OTAN condamne le ciblage de la Turquie par l'Iran, a fait savoir cet après-midi sa porte-parole Alison Hart. Les États-Unis affirment avoir été informés de la situation, sans estimer qu'elle déclencherait l'article 5 du traité de l'OTAN. Cet article prévoit une réponse collective en cas d'attaque contre un État membre. De son côté, Ankara a convoqué l'ambassadeur iranien pour lui faire part de sa protestation et de ses préoccupations. La situation au Proche-Orient et au Moyen-Orient interpelle en France aussi. Hier à 20h, dans une allocution télévisée, le président est revenu sur les récentes confrontations et a fait plusieurs annonces. Anaï nous résume ce discours.
Hier, dans son allocution face aux Français et Françaises, le président Emmanuel Macron a annoncé le déploiement du porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée orientale, au large du Moyen-Orient. Tout cela en partie pour soutenir les pays en accord avec la France, dont le Qatar, le Koweït et les Émirats arabes unis, ciblés par l'Iran pour répondre à l'attaque israélo-américaine. Ainsi, son principal bâtiment militaire devrait rejoindre la zone dans les prochains jours.
Il a aussi annoncé un déploiement militaire important à Naï.
Oui, tout à fait. Le chef de l'État a annoncé qu'en plus des moyens déjà présents, des rafales, des systèmes de défense anti-aérienne et des radars aéroportés ont été déployés hier. Il a aussi annoncé l'envoi de la frégate Languedoc et de moyens anti-aériens à Chypre, pays de l'Union européenne touché par un drone dans la nuit de dimanche à lundi. Selon l'Élysée, ces différents déploiements auraient pour objectif de garantir la liberté de circulation maritime et de défendre les intérêts stratégiques de la France. Cette manœuvre intervient dans un contexte de tensions internationales liées au conflit au Moyen-Orient. La Méditerranée orientale étant composée de plusieurs routes maritimes stratégiques, elle est un axe clé pour le transport de marchandises et de ressources énergétiques.
Autre point important, les Français et Françaises expatriés sont désormais pris en charge.
Eh bien oui, après de multiples implorations de la part des influenceurs comme Maëva Guénam, dont l'intervention sur les réseaux sociaux a été décriée, le président a bien annoncé le début des opérations de rapatriement des ressortissants français bloqués dans la région. Un premier vol en provenance d'Oman est arrivé à 3h du matin à Roissy-Charles-de-Gaulle, 5 jours après le début du conflit. D'autres vols sont prévus depuis les Émirats arabes unis et l'Égypte.
Globalement, que faut-il retenir de ces déclarations ?
Parmi ces déclarations, Emmanuel Macron a notamment insisté sur un point. L'Iran porte la responsabilité première de la guerre. Pour le chef des armées, cette guerre s'étend rapidement. Il appelle donc à la vigilance sur l'évolution de la situation.
Merci Anaï. Le Rwanda s'est fait sévèrement rappeler à l'ordre hier soir par les États-Unis. Le département d'État américain sanctionne l'armée rwandaise ainsi que 4 de ses officiers supérieurs. Washington met en cause le soutien apporté par Kigali aux rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces décisions entraînent le gel des avoirs sur l'armée rwandaise et l'interdiction pour les entreprises américaines d'avoir des relations commerciales avec ses militaires. Les États-Unis accusent le M23 de violer un accord de paix signé en décembre par la RDC et le Rwanda. Les sanctions économiques américaines visent injustement une seule partie, a dénoncé hier le gouvernement rwandais. Il accuse la RDC de ne pas respecter le cessez-le-feu. Rien ne va plus entre la France insoumise et le Parti socialiste à 2 semaines des municipales. Hier soir, le bureau national du PS a dénoncé dans un communiqué des caricatures complotistes et des propos antisémites intolérables de Jean-Luc Mélenchon. En cause, les récentes polémiques autour de la manière dont le leader insoumis a prononcé les noms d'Epstein et de Glucksmann. Le PS appelle dans le communiqué les militants de la France insoumise à se désolidariser de leur chef de file. Jean-Luc Mélenchon a réagi dans la foulée, dénonçant à son tour des accusations intolérables sur X. Autre dossier sensible pour la France insoumise, deux nouvelles arrestations aujourd'hui dans l'enquête de la mort de Quentin Desrocs. Âgés de 22 et 26 ans, les deux suspects ont été interpellés dans la région lyonnaise et dans l'Aube. Ils ont été placés en garde à vue pour homicide volontaire et association de malfaiteurs. 11 personnes ont déjà été arrêtées, 7 sont soupçonnées d'avoir participé aux violences, 4 autres d'avoir aidé les auteurs à se soustraire à la justice. On pense désormais avoir tous ceux qui ont participé directement au coup porté à Quentin Desrocs, précise une source policière à l'AFP. Le militant identitaire de 23 ans a été mortellement frappé le 12 février en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan à Lyon. Souffrant d'un traumatisme crânien, il est décédé 2 jours plus tard. Alma, victime d'un accès frauduleux à ses bases de données, le centre commercial rennais a informé hier ses clients et clientes d'un accès illicite à certaines de ses données. Sont potentiellement exposées des informations personnelles. Selon un mail adressé aux personnes concernées, les données touchées concernent les membres du programme de fidélité et les abonnés à la newsletter. La direction assure avoir pris les mesures nécessaires pour contenir l'attaque. Elle précise qu'aucune donnée bancaire n'a été compromise. Depuis une première édition en 1985, avec une trentaine d'exposants, les tablés du Reux ont bien grandi. Pour ce festival gastronomique, plus de 230 bénévoles sont mobilisés pour 250 exposants. L'invité de cette 42e édition sera le Loir-et-Cher. Au programme ce week-end, concours gastronomiques, concerts et repas collectifs seront organisés. L'événement a lieu de vendredi à dimanche. L'entrée est de 7 euros. Rendez-vous rue de l'Ermitage au Reux.
C'était le flash d'Estelle. Merci.
Quelle heure est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
Et on passe à l'interview.
Aujourd'hui, on s'intéresse à un événement qui promeut une vision alternative et décroissante de l'art visuel. Avec son t-shirt rayure verticale, Paul Vivien est artiste et coordinateur de Visiophare, qui se présente comme le Festival des Arts Visuels Low-Tech Rennais. Bonsoir.
Bonsoir.
C'est quoi le Low-Tech ?
Le low-tech, ça veut dire low technologie en abrégé, et ça se positionne à l'opposé de high-tech. Donc c'est comment on va faire des choses avec moins de technologie, voire pas de technologie. Et ça implique aussi qu'elle soit plus accessible, souvent open source et plus éco-responsable surtout.
Alors open source pour les moldus ?
Open source, du coup c'est source libre. Mm-hmm. Et ça veut dire que par exemple un savoir-faire qui a servi à faire quelque chose, au lieu qu'il soit breveté, privatisé, vendu, il est mis en accès libre pour que les gens puissent l'utiliser. Donc par exemple, un logiciel open source, on peut y accéder gratuitement et on peut le modifier éventuellement, proposer des modifications. Et nous, les projets qu'on développe avec Visiophare sont open source également. Donc les projecteurs qu'on développe, on peut accéder aux plans, on peut se les fabriquer soi-même et surtout on peut se les modifier, se les améliorer à volonté.
Alors pour comprendre un peu mieux ce que c'est Visiophare, je te propose de revenir un peu aux sources. Donc c'est la troisième année, le troisième festival. Qu'est-ce que c'est Visiophare ? C'est à l'initiative de qui ? Pourquoi ça a été créé ?
Visiophare, ça remonte un petit peu à 2019 où on a été contacté par un festival qui était à Sarzeau à l'époque, qui s'appelait La Part Belle, festival éco-responsable, qui nous a commandé sur la façade du bâtiment où avait lieu le festival un mapping, donc une projection qui joue avec l'architecture sur ce bâtiment-là. Nous, on leur a dit que des mappings numériques avec des vidéoprojecteurs, c'est quelque chose de plus en plus courant et connu, mais c'est pas forcément éco-responsable et en adéquation avec leurs valeurs. Et on leur a proposé de tester quelque chose qu'on avait envie de faire depuis un moment, c'est tenter une alternative low-tech d'un mapping. Donc au lieu d'utiliser des vidéoprojecteurs numériques, on s'est dit on va essayer de le faire avec des rétroprojecteurs analogiques. La différence entre les deux, c'est que les vidéoprojecteurs, on envoie de la vidéo depuis un ordi ou un lecteur DVD par exemple. Et un rétroprojecteur, on met plutôt des feuilles, des matières, des calques dessus sur une plaque en verre et ça envoie l'image par rétroprojection.
Et ça fonctionne tout aussi bien.
Ça fonctionne différemment. Mm-hmm. Donc c'est tout aussi lumineux selon la puissance qu'on arrive à avoir dans les machines. On travaille beaucoup pour les rendre de plus en plus puissantes. Mais c'est un autre type de contenu visuel. Il n'y a pas de pixels, c'est analogique, c'est artisanal. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on appuie sur barre d'espace et puis ça joue tout seul, par exemple.
Ok, donc on peut se pencher maintenant sur le programme des 4 journées de l'événement qui vont débuter dès demain. Donc c'est aux Ateliers du Vent à Rennes. Et demain, donc, ça commence avec une journée atelier de 14h à 18h. Je crois que les inscriptions sont complètes.
Tout à fait.
Et on ne peut plus s'inscrire. Ça ne nous empêche pas d'en parler, de nous expliquer. Je crois qu'il va y avoir construction d'un splodascope.
C'est ça. Alors, tu l'as prononcé du premier coup, nickel.
Yes.
Tout le monde n'y arrive pas. Un splodascope, c'est un appareil des années 70 qui est assez simple. C'est une sorte d'aquarium ouvert plat, comme un triple vitrage de petites plaques de verre de 30 cm de côté, entre lesquelles on va mettre du liquide, de l'huile, de l'eau, un peu ce qu'on veut, coloré. Et en fait, à l'intérieur, il y a des tuyaux qui envoient des bulles grâce à une pompe d'aquarium qui souffle de l'air. Et ça permet d'avoir cet appareil sur un rétroprojecteur et d'avoir une sorte de machine à bulles qui projette après des bulles à grande échelle, sur une grande surface, sur un bâtiment, un château, etc. Donc c'est un appareil assez ludique à fabriquer, qui est relativement simple. Et nous, du coup, avec ces workshops de demain, les gens achètent un kit pour se construire leur splodascope et on va les guider dans l'assemblage et la fabrication des éléments et ils repartent avec.
Génial. Un peu dans l'idée do it yourself que veut promouvoir aussi à votre événement, si je comprends bien.
Tout à fait. On essaye de créer un maximum de choses qui soient accessibles techniquement, faciles à faire, de les documenter, de partager des tutos, etc. Il y a des gens pour qui c'est pas forcément suffisant, qui ont envie d'être accompagnés en direct ou juste qui aiment bien tout simplement être accompagné en direct. Et donc pour ça, on propose ces ateliers-là de tout type. Et les ateliers splodascope de cette machine à bulles, c'en est un. Et on en fait de plein d'autres types. Il y en aura notamment au festival pour dessiner sur des calques à même un bâtiment, jouer avec des petites formes modulables pour faire des compositions qu'on aime bien. Il y aura un atelier tamponnage sur calque aussi. Donc il y a beaucoup de choses à disposition pour jouer, s'amuser avec de l'art visuel.
Est-ce que les gens qui n'ont pas eu la chance de pouvoir s'inscrire peuvent accéder du coup à ces plans pour le faire chez eux ?
Tout à fait. Sur le site visiophare.org, on a plein de plans qui sont en ligne gratuitement, qui sont accessibles, avec des explications, des listes des composants à s'acheter et surtout comment se les fabriquer. Et donc les workshops qu'on propose avec Visiophare, systématiquement, il y a un équivalent tutoriel mis en page, en texte ou vidéo, qui est disponible sur notre chaîne YouTube aussi.
Génial. Après cet après-midi atelier, le lendemain, on peut expliquer ce qui va se passer. Donc je crois que c'est à partir de 18h qu'il y aura le vernissage de la soirée d'ouverture de lancement du festival avec concerts et DJ set. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le programme ?
Bah ouais, en bref, pour la partie sonore, on va avoir un premier DJ set avec Chassé Croisé qui vient de Paris pour l'occasion. Puis on va avoir un live audiovisuel, donc une performance où musique et son sont joués en direct ensemble, en symbiose. Une performance qui s'appelle Mirae, qui est jouée par un duo qui vient également de région parisienne et qui est lauréat de notre appel à projet de cette année, qui ont candidaté avec un projet en cours de création. Et ils sont à cet instant même en résidence dans un local qui s'appelle Le Garage, pas très loin d'ici, dans le quartier Villejean, pour préparer cette performance. Juste après, on a un deuxième DJ set qui va être de Blanca Bruschi, qui nous fait le closing. Et accompagné à chaque fois, les deux DJ sets sont accompagnés d'un liquid light show. Donc c'est quelqu'un qui joue avec des liquides, des encres et des couleurs en projection, en direct, en low-tech, pendant la musique. Et là, ça sera demain Captain Delight qui fera le liquid light show.
Super.
Sur le reste du programme, vite fait, on va avoir des projections à l'extérieur sur les bâtiments avec différents artistes qui projettent, qui couvrent les bâtiments de visuels, toujours en rétroprojection low-tech. Et là-haut, aux Ateliers du Vent, dans la salle d'expo, et bien, il y aura plusieurs œuvres exposées qui explorent des manières de créer de l'image autrement et de manière plus décroissante.
Mmh. Et en parlant d'expo, je crois qu'il y a aussi des expositions participatives. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept ? Et donc ça, c'est vendredi, je crois, et samedi. Donc les jours d'après.
Ouais. Alors en fait, même toute l'exposition du festival, elle a pour certaines œuvres des dimensions participatives où les gens du public peuvent venir contribuer à l'œuvre, dessiner un petit peu, etc. Il y a plusieurs œuvres comme ça qui sont participatives. Il y en a d'autres qui le sont moins. Et il y en a qui sont plus interactives où les gens peuvent actionner un dispositif pour mettre en mouvement un visuel. Il va y avoir un vélo sur lequel on peut pédaler pour que des calques s'animent et créent des illusions d'optique appelées moirées. Un autre système un peu similaire, mais avec une manivelle à tourner à la main. Donc la plupart des œuvres nécessitent l'intervention du public pour prendre vie, oui.
Ok, et je crois aussi qu'il y a une conférence de prévue samedi. Alors c'est quoi le thème, de quoi on va discuter?
Alors le thème de la conférence, c'est Visiophare, communauté et structuration des arlothèques.
Waouh, tout un programme.
Oui, donc on va avoir plusieurs intervenants, intervenantes qui viennent parler de ce que c'est qu'une communauté de réflexion, de recherche et de développement autour de l'open source. Qu'est-ce que c'est que l'arlothèque en France et sur le territoire? Et aussi, qu'est-ce que c'est Visiophare dans tout ça? Comment ça interagit avec sa communauté? Comment ça propose des choses? Comment ça peut s'améliorer? Donc, plusieurs personnes qui vont s'enchaîner, présenter leurs expertises personnelles et après des discussions en commun de tout ça. Plutôt, on va faire d'abord conférence, puis table ronde. Et on va enchaîner après ces tables rondes avec une animation concours de vinaigrette projetée, où du coup, des gens du public, un peu à la Top Chef, vont devoir créer en direct une recette de vinaigrette qui est projetée sur un plat transparent et qui est projetée sur un mur avec un projecteur. Et donc, il y a plein de prix à gagner en fonction du goût qu'a eu la vinaigrette, mais aussi des couleurs, des mouvements qu'elle a eu. Donc, c'est un mélange entre concours culinaire et concours artistique live.
Est-ce qu'il faut s'inscrire ou on peut juste venir sur place et participer?
Alors, on peut s'inscrire jusqu'à une minute avant le début du concours à 17h, mais les inscriptions se font uniquement sur place au festival. Donc, il faut venir le jeudi, le vendredi ou le samedi, poser son nom sur un post-it dans une urne qui sera en réalité une essoreuse à salade qui sera au niveau du coin billetterie, et on peut s'inscrire en solo ou en duo pour être tiré au sort pour participer au concours le samedi. Voilà. D'accord. Donc on a des places très limitées d'inscription et on ne sait pas du tout quelle affluence va y avoir pour ce concours, donc on s'est dit on va faire un tirage au sort au moment de démarrer le concours et les gens qui sont là et qui sont tirés au sort peuvent du coup concourir.
Et samedi, il y a aussi un stage prévu l'après-midi.
Ça, finalement, ce n'est plus prévu. Non, c'est dans le vieux dossier de presse.
Ouais. Je passe à la question suivante. Alors, vous avez aussi des partenariats avec le ESAB. Je ne sais pas si on dit comme ça ou ESAB.
Je crois qu'ils disent plutôt ESAB.
ESAB,
oui.
Voilà. Donc, avec des étudiants et étudiantes qui vont venir participer au festival. Pourquoi c'est important pour vous de laisser la place à un jeune public, un public apprenant?
Pour nous, c'est important qu'un projet comme celui-là ne se présente pas comme quelque chose d'élitiste, où il y a vraiment des artistes qui viennent, qui sont programmés, qui font leur truc. On invite les gens à venir les voir et puis c'est tout. C'est important que la génération de demain, les artistes de demain, viennent aussi montrer des choses. C'est important pour des étudiants, des élèves de sortir de l'école et d'aller faire des choses. C'est un début de professionnalisation aussi. Donc nous, déjà, ça nous intéresse d'offrir ça en tant que Visiophare, d'offrir cette opportunité aux élèves. Et tout simplement, il y a un regard nouveau avec beaucoup de recul de la part d'étudiants et étudiantes qui ne sont pas encore complètement concernés par non plus les enjeux professionnels et techniques qu'implique ce genre de projet. Donc on accompagne un groupe de 10 personnes dans la création d'une fresque évolutive qui va être mappée sur une des façades. Et ça fait suite à un workshop de 3 jours qu'on a eu en février avec des élèves de l'ESAB. Et vous pourrez découvrir cette fresque les jeudis et vendredis soirs.
Super. Tu l'as dit tout à l'heure, vous avez fait un appel à projet cet hiver. Est-ce que ça va être renouvelé pour une potentielle édition prochaine? Est-ce que tu peux déjà annoncer des choses si des gens ont envie de proposer quelque chose? Est-ce qu'il faut rester à l'affût pour la prochaine édition?
Alors, en toute transparence, on n'a pas encore discuté de l'année prochaine avec le reste de l'équipe.
Je trouve peut-être dans le qu'on.
Futur. Mais c'est bien, il faut, c'est l'actualité. Peut-être qu'il faut faire un appel à projet l'année prochaine, peut-être que c'est chouette. On n'en sait rien de ce qu'on va faire pour l'instant l'année prochaine. La situation culturelle actuelle crée pas mal de précarité pour les gens qui organisent des événements comme nous. Si vous voulez rester à l'affût d'un éventuel appel à projet, vous pouvez vous abonner à la newsletter de Visiophare qui est sur le site web. Il y a aussi un lien pour s'inscrire dans le Linktree de notre Instagram. Et aussi, tout simplement, suivre le Instagram. On relaie les infos de ce genre-là pour pas louper le prochain appel à projet.
J'avais aussi envie de te demander quelle place prend la low-tech et toutes ces thématiques écologiques et technologiques sur notre territoire à Rennes. Est-ce que c'est vous vous êtes pas implanté là par hasard? Est-ce que c'est un territoire où il y a du potentiel pour développer des choses en rapport avec la low-tech? Comment vous, le reste de l'année, vous évoluez sur le territoire, vous proposez des initiatives et comment peut-être les gens qui sont intéressés peuvent aussi faire avancer les thématiques écolo et technologiques?
Il y a beaucoup de questions en une, mais on a observé que c'est un territoire qui est très très ouvert à des alternatives à la création, à des autres façons de faire, pas que dans la création artistique, aussi dans l'innovation, dans le design. On observe qu'en Bretagne, et notamment à Rennes, il y a vraiment pas mal de structures qui s'intéressent à des modes de création plus décroissants, plus open source, plus ouverts. Je pense à des lieux comme la Belle Déchette, comme la Vilaine Fabrique, etc., qui proposent vraiment d'autres façons de faire. On voit vraiment un essor de ça, une prise de conscience de plus en plus importante par de plus en plus de structures et de gens. Donc on est assez content de voir les retours qu'on a du public, les retours qu'on a de nos partenaires qui ont envie de nous soutenir et de nous suivre dans l'aventure qui est Visiophare, qui n'est pas développée uniquement à Rennes. Visiophare, au final, c'est un projet un peu sans frontières, puisque c'est avant tout une communauté en ligne avec des artistes basés à droite à gauche, des designers basés à droite à gauche et aussi des publics, des amateuristes qui rejoignent cette communauté via le Discord, l'Instagram, etc. Donc on a certes une activité qui est assez développée en Bretagne et autour, avec des ateliers, des spectacles qu'on joue, puisque le festival c'est notre temps fort où on montre un peu tout ce qu'on a envie de montrer au public d'un coup, mais le reste de l'année, Visiophare, c'est plein d'actions à droite à gauche, des ateliers, des spectacles, etc.
Donc encore une fois, vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux pour savoir ce qui se passe le reste de l'année. Et dernière question, si on se projette à la fin du festival, qu'est-ce que tu aimerais que les visiteurs et visiteuses emmènent avec eux en rentrant chez eux, retiennent peut-être une envie de fabriquer, une envie d'aller plus loin?
J'aurais envie que les gens se disent que s'ils hésitaient à faire de la création artistique, à dessiner, projeter, qu'ils se disent qu'en fait c'est vraiment accessible et simple, que ça demande certes de prendre du temps, d'avoir un tout petit peu de matériel, mais j'aurais envie que les gens se sentent plus timides face à la feuille blanche que peut être le fait de devoir créer et de ne pas avoir forcément d'idée de choses à créer. En fait, des fois, il ne faut pas réfléchir et faire. Et puis, tant qu'on s'amuse, en fait, la création est super.
Merci Paul Vivien, je le rappelle, artiste et coordinateur de Visiophare. Et Visiophare, c'est dès demain et jusqu'à samedi aux Ateliers du Vent de Rennes.
Et c'est en entrée, prix libre tout le long.
Merci.
Merci.
6h avant minuit. 6h avant minuit.
Chronique littéraire aujourd'hui, ça s'appelle Des mots sur la langue et Loïsa Jacques nous y confie ses livres de chevet.
Des mots. Sur la langue, je le vis, je rougis, je pâlis à ses regards. Un trouble s'éleva dans mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étranger.
Les livres de Loïsa.
À la pompe, les Russes nous observaient toujours à la dérobée. Ils ont compris depuis longtemps que ce sont d'abord les vieilles et les bossus qu'on délègue ici. Je plisse donc le front, tire les commissures de mes lèvres vers le bas, fais les petits yeux pour avoir l'air vieille et moche. Au début, quand je n'étais pas encore connue comme le loup blanc, nos autres Russes me demandaient souvent mon âge. Quand je leur répondais que j'avais passé les 30 ans, ils ricanaient et répondaient « Eh eh !» Elle se vieillit, la maline. Mais ils étaient bien obligés de croire la carte d'identité que je leur brandissais alors sous le nez. Ils ne s'y retrouvent plus avec les femmes d'ici. Ils sont habitués aux Russes, vite avachis, abîmés par les grossesses successives, et ne savent pas lire notre âge sur notre corps. Aussi piteuse et misérable à voir que soit aujourd'hui la plupart d'entre nous, en comparaison de ce qu'elles étaient en temps de paix. Un Russe, au jour rouge, se promenait le long de notre rangée, en jouant de l'accordéon. Il nous interpella. « Hitler fini, Goebbels fini, Staline, bien !» Il rit, lance son juron à la mer, tape sur l'épaule d'un camarade et crie en russe, bien que personne dans la queue ne comprenne ce qu'il dit. « Regardez celui-là, c'est un soldat russe, venu de Moscou, à Berlin !» Ils sont tellement fiers d'être les vainqueurs que ça leur sort par tous les pores. Apparemment, ils n'en croient pas leurs yeux eux-mêmes d'en être arrivés là. Nous, on avale tout, on fait la queue et on attend. C'était une femme à Berlin, journal, 20 avril, 22 juin 1945. Je sais pas si vous faites ça, vous, mais moi, sur la page de garde de mes livres, souvent, je marque l'endroit où je l'ai lu, et puis la date. Et là, j'ai marqué 2008, Berlin. Donc, j'ai imaginé, à partir de ma lecture, je regardais la ville et je faisais venir en une superposition, une strate du printemps 45, où Berlin était en ruine. Et il y avait quand même un paquet d'habitants qui n'avaient pas pu quitter la ville. Et il y avait cette femme, on ne sait pas qui c'était. Elle avait beaucoup de talent d'écriture. Et elle a écrit son journal d'une force incroyable. parce que ça décrivait les événements, ce qui se passait, l'arrivée des Soviétiques, l'occupation, la faim, la violence, la peur, la violence aussi avec les viols. Et cette vie-là au quotidien, dans les ruines, c'est vraiment un document brut en même temps que c'est de la littérature. Elle décrit ça de manière factuelle, même avec une pointe d'humour parfois, comme on l'entend un peu là dans ce passage, alors qu'il lui arrive les pires trucs. On sait très peu de choses de cette femme-là. Elle est restée anonyme. Il y a quelqu'un qui a cherché à publier ses carnets, et c'était dans les années 50, d'abord aux États-Unis, dans d'autres pays aussi, mais en Allemagne, ça a été extrêmement mal reçu. Les gens ont prétendu que c'était faux, parce qu'ils avaient honte de ce qui avait pu se passer. Donc il y avait un vrai déni de ce qui s'était passé. Donc après, il n'y a pas eu de réédition. L'autrice de ce texte n'a pas souhaité revivre les réactions à son texte. Et uniquement après sa mort, dans les années 2000, ça a été republié. Et là, ça a enfin été accepté en Allemagne. Parce qu'il y avait eu tout un cheminement par rapport à l'histoire. Apparemment, c'est une femme qui était, il semblerait, journaliste. Et à ce titre-là, elle a beaucoup voyagé, y compris en Union soviétique. C'est comme ça qu'elle parlait russe, c'est comme ça aussi qu'elle s'en est sortie, par cette volonté de vivre, mais aussi grâce à sa connaissance, même rudimentaire, de cette langue qui lui a permis d'essayer de survivre avec cet occupant. Donc c'est une œuvre précieuse, je trouve, à la fois document brut et littérature, par le talent de son autrice. Et c'est un page-turner, en fait. C'est quelque chose qui se lit avec vraiment passionnément, très vite. Le monsieur qui a fait sortir ce texte dans les années 50 aux États-Unis, il avait écrit un texte d'accompagnement, et je trouve que sa conclusion est vachement intéressante, donc je vais vous la lire. Ainsi l'auteur remportait-elle au sortir de ses tourbillons une victoire secrète, avoir pu remonter des profondeurs du maelstrom et refaire surface. Non pas en vertu d'une loi physique, mais parce qu'elle ne s'est jamais abandonnée elle-même, tout en étant contrainte de s'abandonner aux autres. Et ça dit donc qu'on peut vivre des choses terribles et quand même trouver la force de s'en sortir.
C'était une chronique de Loéza Jacques. Merci à toi, Loéza. Estelle, est-ce que tu peux appuyer sur le petit bouton du répondeur, s'il te plaît ?
J'appuie, bip.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô, allô.
Syllab, la radio sauvage.
Coucou tout le monde, merci beaucoup pour le message d'hier à l'antenne de l'émission. Bon, c'est vrai que de temps en temps, je pars tout le temps, mais bon, à un moment, il faudra que je m'arrête un peu. Tiens, petite info locale que j'ai vu ça cette semaine. J'ai mon ami David Lucas qui anime l'émission Aloha Fondrine sur Canal B le vendredi soir de 21h30 à 22h. Et ben, David fait une exposition de ses photos Polaroid au Jardin Moderne aujourd'hui. Et en plus, c'est gratuit. Et il retrace pendant 600 ou 7 ans d'émission avec bien sûr des photos Polaroid à chaque émission. Donc voilà, et puis là, si il y a des auditrices et des auditeurs de Syllab qui connaissent l'émission de David Lucas à Aloha Fondrine, bah, il faut écouter l'émission J'irai cracher sur vos ondes du mois de juillet dernier, donc où David Lucas était invité dans l'émission de Cess et de Clara, et que j'étais très content d'entendre la voix de David, parce que David avait pris une pause. Et là, ben, entre son groupe de rock qui est vraiment pas trop mal, qui a fait la première partie de Deportivo le mois dernier à Château-Giron, et ben là, maintenant, ben, il fait son expo Polaroid aux Jardins Modernes depuis aujourd'hui jusqu'au 3 mai 2026. Donc Vraiment, si vous voulez vraiment voir l'expo de David Lucas de l'émission Allo à Fondrenne, eh ben, c'est de aujourd'hui jusqu'au 3 mai 2026. Allez, gros bisous à vous. Ciao.
Merci Benoît. Le répondeur, ça devient la chronique de Benoît. Il laisse des messages tous les jours.
Tous les jours.
Mais au moins, tu fais vivre notre répondeur. Donc merci beaucoup Benoît. Faites comme Benoît, laissez un message vocal 02 30 96 25 35. On vous écoute, on vous diffuse à la fin de cette émission. À la technique ce soir, c'était Maud. Merci à tous et à demain dans 6h avant minuit.
Exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure 6 heures.
Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllabe,
la radio sauvage.